Radio Primitive.
La radio libre et associative.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir, je crois qu'on va commencer par du social ce soir, puisqu'il y a eu un procès en appel d'un leader syndical du Sud au niveau de la Poste, je crois.
Oui, il s'agit du procès en appel de Gaël Quirante, qui, une nouvelle fois, est... mis en procédure pour son action syndicale. Alors Gaël a l'habitude, on va dire, d'être amené devant la justice par son employeur. Hein. Gaël fait partie du syndicat Sud PTT du 92, qui est une section syndicale particulièrement combative, hein, puisqu'on se rappelle, pour nos fidèles auditeurs, qu'on a eu à de nombreuses reprises l'occasion de revenir sur nombre de grèves qu'ils ont menées, à la fois pour titulariser des gens qui étaient en CDD ou pour protester contre la réorganisation du secteur. Et Gaël, à la star de nombreux de ses camarades de Sud PTT, hein, comme Yann également, comme Xavier aussi, a été à la fois mis en cause par le ministère, hein, puisque à plusieurs reprises, le ministère du Travail a validé les sanctions qui avaient été prises à son encontre, puisque Gaël étant délégué syndical, il est censé être protégé par son mandat. Et le ministère du Travail avait admis le fait que son licenciement pouvait être fait. Ces procédures ont à chaque fois été déboutées par la justice, notamment la justice administrative, puisque c'est le cas pour le licenciement d'un salarié protégé. Et là, je crois qu'il s'agit d'un procès pour séquestration. Je n'en suis pas sûr, puisque, comme je vous l'ai dit,
non,
nombreuses, c'est pas séquestration.
Non, c'est pour le vol d'un portable d'une cadre.
Ah, bon, oh là, ah bah oui, forcément, avec les payes qu'ils ont à la Poste, ils sont obligés de s'emparer de moyens de communication. Non, mais bon, tous les prétextes ont été utilisés. Ouais. Contre Gaël, mais de toute façon, je pense que ça va être exposé dans le son que l'on va entendre tout de suite. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, c'est ça ?
Et c'est
puis,
ça.
On verra si on en discute ou si on vous parle d'autre chose ou de toute autre chose. Mais bon, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà.
Bon. Bah alors quoi ?
Il veut rien savoir.
Alors, si vous n'entendez rien, c'est normal, puisque nous non plus, nous n'entendons rien. Donc, ne soyons pas alarmés. C'est pas grave. Ça arrive. En attendant que ça parte, Denis, tu nous avais préparé quelques merveilleuses nouvelles.
Oui, bah peut-être que...
Ah, voilà, ça y est, c'est parti.
Qui a un peu cristallisé la situation. En fait, depuis le mois de septembre, on demande la réouverture... depuis le mois de juin, pardon. On demande la réouverture des NAO, pour notamment la revalorisation des salaires les plus bas. Et là, au début de notre grève, en se baladant, on a trouvé des fiches de paye de grands dirigeants de notre entreprise. Donc, il faut qu'ils ferment mieux les fenêtres au siège. Et on a vu que ces grands dirigeants, ils sont quatre, faisant en moyenne 26 000 euros de salaire, ce qui est déjà pas mal. Mais en plus, ont des primes d'objectifs allant de 180 à 300 000 euros. Donc c'est les mêmes qui nous disent que c'est dur, que c'est la crise, qui s'octroient des primes de 300 000 euros sur la... En fait, avec le fruit du travail des salariés qui sont tout en bas.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci.
On est toujours devant le tribunal d'appel pour soutenir Gaël Quirante, qui a pour objectif de faire tomber ses 3 mois de prison avec sursis. Et là, je suis avec Yann Lemaire de Sudpost, de Sudptt, pardon.
Sudpost Activité Postale 92 et de la Fédération aussi.
Voilà. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ce qui a été reproché en première instance à Gaël?
Alors en gros, au moment de la grève de 2018, qui était un conflit, comme chacun sait, très long et très dur, qui a duré 15 mois, voilà, il y a une cadre d'un établissement postal qui a porté plainte pour vol de son portable. Et en l'occurrence, en première instance, la cour a condamné Gaël à 3 mois avec sursis. Donc aujourd'hui, ce qui se juge, c'est l'appel. On sait que la boîte n'hésite pas quand même quand il s'agit de monter des dossiers de toutes pièces. Je veux dire, on est quand même un certain nombre à avoir subi ça là pendant des années. Et c'est vrai que là, l'enjeu de ce procès, c'est que Gaël soit relaxé. Parce que clairement, s'il était à nouveau condamné, là c'est une condamnation au pénal quand même, avec de la prison avec sursis. Donc évidemment, ça aura nécessairement une incidence sur l'ensemble des dossiers qui vont suivre, parce que là, lui, son prud'homme pour son licenciement n'a pas eu lieu. On a différentes affaires en cours, parce qu'on est accusé d'avoir envahi le siège. Là, on est quelques-uns à être mis en examen, donc on ne sait pas quand ça tombera, si ça tombera, puisque c'est instruit depuis maintenant 7 ans. Là, c'est évident que cette affaire...
C'est déjà des espèces de sursis déguisés, en fait. Toutes ces mises en examen qui sont pas...
Il y a eu des mises en examen au moment de la grève et il y a eu des mises en examen 6 ans après. Moi, j'étais mis en examen 6 ans après. Comme quoi, la justice prend son temps quand il s'agit de dégommer les syndicalistes. C'est une affaire parmi d'autres, parce qu'en fait, à la Poste, ces derniers temps, on a quand même plein d'histoires. Copain secrétaire adjoint de Sud-BTT Réunion qui a failli se faire virer. Il s'est finalement pris 3 mois parce que l'inspection a dit non. On a des copains en Guadeloupe qui se sont fait cogner. On a quand même un militant CGT, Chris, qui s'est fait révoquer. Là, pour le coup, c'est la première révocation 2015 depuis 50 ans, c'était la mienne. Lui, c'est la seconde. Et c'est encore un militant syndical. Dans le Calvados, c'est quand même pas n'importe quelle structure, la CGT. Et donc, c'est les militants, on va dire, lutte de classe qui sont imprimés. C'est pas une nouveauté. Mais là, c'est ce procès-là. Là, l'enjeu n'est pas que symbolique. Voilà. On avait été condamné en première instance il y a maintenant 11 ans sur une histoire de séquestration. Et on avait été condamné à une amende. C'était déjà un problème. On était déjà passé ici en appel et la majeure partie des gens qui avaient été condamnés en première instance ont été relaxés. Mais j'allais dire, là, à ce moment-là, on était condamné à une amende. Donc la condamnation, elle était quand même un peu d'ordre symbolique. Même si ça pèse sur tous les tribunaux, pour ne pas dire la justice bourgeoise, en règle générale, d'être condamné même à titre symbolique, ça pèse dans les dossiers qui suivent. Mais là, clairement, c'est de la tôle. Et on n'est pas dans le même registre, en réalité. Donc, avec ou sans sursis, et d'ailleurs, ça pourrait ne pas être sans sursis. Une cour d'appel peut aggraver la peine en première instance. Donc là, oui, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à ce que Gaël soit relaxé, puisque sinon, effectivement, on aura quand même un militant condamné à de la prison et avec une confirmation de cette condamnation. Et là, c'est, je vais pas dire que c'est un drame pour tout le mouvement social, mais c'est arrivé plein de fois pendant les Gilets jaunes, par exemple. Mais là, j'allais dire, on est dans un champ plus classique, qui est celui du syndicalisme. Et ça, c'est plutôt rare. Et évidemment, voilà, si Gaël, s'il advenait que Gaël était condamné, ça pèserait sur nous tous, c'est une certitude. Dans une période où le patronat et le gouvernement sont à l'offensive, c'est clair qu'on n'a pas du tout intérêt à ce que ça se passe comme ça. Là, ce qu'il faut, c'est un vrai tous ensemble. C'est que les moments comme ceux qui se sont déroulés là, dans la dernière séquence autour des raffineries, ils créent vraiment des dynamiques pour une grève générale et un contre-coup à la politique gouvernementale, parce que sinon, effectivement, on va se retrouver de plus en plus souvent, encore et encore, devant les tribunaux qui, en réalité, en règle générale, n'ont que peu à faire des questions sociales.
Mais alors, avant de revenir sur les histoires judiciaires, il y a eu plusieurs journées de grève, soutenons-nous, donc les 27 octobre et 10 novembre. Je crois que la précédente, j'ai oublié la date, mais c'est
le
pas 29, grave.
Le 18,
voilà,
le
27, c'est ça.
Et le 10.
Et on a très peu vu la Poste. Pourquoi ?
Le 18 octobre, il y a quand même des coins où la grève a été majoritaire. En gros, pas compliqué, hein, c'est les endroits où il y a eu du travail en amont, ça s'est plutôt bien passé. Et on a eu quelques surprises dans certains coins, par exemple à Toulon, un bureau qui débraye quasiment majoritairement sans intervention syndicale du tout. Dans le 44, donc en Loire-Atlantique, 5 bureaux en grève majoritaire, 3 qui veulent reconduire. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en réalité. Alors évidemment, c'est pas énorme, ça n'a pas été le raz-de-marée le 18, mais mine de rien, ce que ça prouve, c'est que il y a des coins quand même où les travailleurs ont envie de réagir. Et à ce moment-là, on a eu ça. Après, sur le 10 novembre, par exemple, le fait qu'on peut quand même discuter de la date à la veille d'un férié, etc., et que c'est pas l'idéal pour une reconductible, on a un problème très concret à la Poste. Et ça s'est senti dans un certain nombre de secteurs. C'est que là, la Poste est vent debout contre le droit de grève, en réalité, et qu'ils ont décidé un truc contre lequel on bagarre juridiquement aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'ils ont les moyens de bagarrer. C'est-à-dire que là, en fait, si on fait veille à la veille d'un week-end, ils prennent 3 jours. Même sur des grèves carrées de 24 heures. Et là, en l'occurrence, faire grève pour plein de postiers et postières, faire grève le jeudi 10, ça voulait dire avoir 4 jours dans la tête. Et même les coins où il y a des militants et où il y a des camarades qui sont partants, y compris, qui sont toujours partants pour les grèves, là, sur ce coup-là, ils n'ont pas appelé parce qu'ils savent que les salariés, les fonctionnaires, les travailleurs de la Poste et les travailleuses de la Poste risquaient 4 jours de grève pour une journée carrée. Et ça, c'est dû à l'attaque contre le droit de grève qu'on subit en ce moment. Voilà, donc là, on a des jurisprudences, enfin, en tout cas des jugements prud'homaux qui vont dans notre sens, sauf que les jugements prud'homaux, ils font pas jurisprudence, et qu'on sait qu'on est barré pour des années de bagarre avec la Poste sur ce thème-là. Savoir que là, ils appliquent un arrêt qui s'appelle l'arrêt au Mont, qui est un truc lié à l'administration. La Poste, c'est une ESA. Il y a aujourd'hui plus que 60 000 fonctionnaires sur 170 000 personnes dans le groupe. Donc les fonctionnaires sont largement minoritaires, mais ils appliquent ça à tout le monde et de façon en plus inconsidérée, puisqu'ils n'ont même pas besoin que la grève soit encadrée, en gros que le week-end soit encadré par 2 grèves pour le taper. Ils considèrent que si tu as fait grève le jeudi, que vendredi c'est férié et que samedi et dimanche tu bosses pas, c'est 4 jours de grève. Voilà. Et ça, c'est un truc de dingue contre lequel on bagarre, mais pour l'instant, juridiquement, eux, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir, ils ont plein de gens autour d'eux, ils ont 34 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont les fonds pour nous emmerder jusqu'au bout sur le plan juridique. La vérité, c'est qu'encore une fois, sur le plan juridique, on se bagarre, on attaque, etc. Mais que c'est pas sur ce terrain-là, a priori, qu'on obtiendra satisfaction. Hein, c'est par le terrain de la grève et de la vraie, pas de la grève carrée.
Est-ce qu'on a t'as d'autres attaques ? Il y a d'autres types d'attaques contre le droit de grève ?
Oh bah là après c'est l'individuel, hein. C'est les menaces, c'est par exemple à Bordeaux en ce moment où il y a des camarades qui ont fait grève une semaine quand même, justement, après le 18, donc dans le colis, et là qui continuent le mouvement sur la base d'une grève d'une heure reconductible, donc quotidienne. Ils ont une prime qui s'appelle la prime challenge, qui est quand même pas négligeable, hein, parce qu'elle est découpée en 4 parties d'une semaine. Et donc la prime c'est 150 balles. Hein. Donc ça veut dire pour que on appelle ça la pic période. Pour les camarades du colis, en fait, ça veut dire quand même qu'ils connaissent évidemment un surcroît d'activité énorme au moment des fêtes. Cette prime-là, elle compte, elle pèse d'autant qu'on est payé quand même pas loin du SMIC à la poste. Hein. Fin de carrière pour un facteur, c'est 1550 balles. Hein. Fin de carrière après 42 ans. Hein. Donc clairement 650 euros, ça compte. Et là, ce que fait la boîte, ce qu'ils viennent d'annoncer, ça c'est un peu une nouveauté. Voilà, il y a un accord à la con sur la prime challenge qui dit qu'en cas d'absence, sur une semaine, on perd le quart de la prime. Et en l'occurrence, là, la petite nouveauté, c'est que les camarades ils sont en grève d'une heure et que la boîte dit une heure, c'est comme une absence d'une journée. Et donc, on vous fait sauter la prime. Donc, ça veut dire que concrètement, si tu fais 4 fois une heure sur un mois, tu manges 650 balles. Ce qui veut dire qu'effectivement, là, ça fait cher la grève. Donc là, pour l'instant, nos camarades... Ils ont décidé, ils sont 30 grévistes hein, sur le LHU là en Gironde, ce qui n'est pas négligeable du tout, hein, c'est majoritaire. Ils ont décidé de passer outre les menaces de la boîte. Mais ça, typiquement, c'est une sacrée attaque, hein, puisque quand on t'explique que même une heure de grève, ça équivaut à une journée d'absence, et qu'à ce titre-là, on va te retirer 150 balles sur chaque semaine, parce que là, pour le coup... C'est découpé en 4 périodes. Il suffit de faire grève une fois, une heure sur chaque période pour perdre l'ensemble de la prime. Et ça, si ce n'est pas une attaque contre le droit de grève, je ne sais pas ce que c'est qu'une attaque contre le droit de grève. On a des attaques individuelles, on a des attaques contre les réorganisations. Et ce qui est remarquable, c'est que même quand on gagne, la boîte passe outre. Donc on va à chaque fois, ils vont le plus loin possible. Donc il y a Gaël, Brahim, Nordine, Xavier, je crois, et moi, je sais plus. En fait, je t'avoue, je m'y perds. Je sais plus, mais il y a des affaires en cours. Pour l'instant, qui tombent pas. Tu vois cette histoire là d'envahissement du siège qui date de 2014. Je sais pas à quel moment ça va tomber.
Ça fait 8 ans quand même là.
Ça fait 8 ans. Ils ont bouclé l'instruction l'année dernière. Donc je t'avoue que je sais pas trop je sais pas trop pour de vrai hein, parce qu'on a quand même une série d'attaques et que c'est compliqué de faire le compte.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'est la sortie de Gaël du tribunal.
Donc ce que je redis, hein, merci à l'ensemble des camarades là pour être présents ici. À l'entrée du tribunal, on avait un certain nombre de faits là qu'on a explicités. Sans laisser un peu de suspense, le délibéré, ça tombera donc le 5 décembre. Voilà, donc où on aura la décision qui tombera du tribunal. Écoutez, c'est tout à fait pénible, mais au final, il n'y a pas de vidéosurveillance. Le moment des faits incriminés ne figure pas dans les captures d'écran vidéo. C'est-à-dire qu'on a en gros l'image numéro 1, l'image numéro 2, mais en fait il manque l'image qui correspond aux faits. Qu'on n'a jamais eu communication, que de fait on l'avait demandé d'abord parce que on voulait montrer qu'on nous entravait l'accès au centre, mais aussi évidemment montrer qu'on n'avait rien à se reprocher. Et donc dès le 2 mai en fait on a demandé accès à la vidéosurveillance. On a je crois soulevé les incohérences dans les témoignages des cadres. Il reste quoi en fait? Il reste, si on est condamné au final, il reste en fait que la parole de cadre de la poste vaut plus que celle de travailleurs et de travailleuses d'exécution. Il faut quand même savoir que l'avocat général, qui avait l'air de s'ennuyer pendant tous les débats, a quand même augmenté la réquisition, hein, puisqu'il a demandé 6 mois de prison avec sursis et une augmentation des dommages et intérêts pour l'une des cadres. Donc on va attendre le 5. Moi, je trouve que, en fait, par rapport à la première instance, nous avons été plus clairs sur le fait que il y avait des incohérences dans les témoignages dits des cadres, qui disaient des choses qui étaient contradictoires. On a, et je pense que c'est le rôle dans le cadre d'un tribunal en appel, on a aussi soulevé les incohérences dans la décision de justice. Par exemple, on a quand même soulevé le fait que, alors qu'on rentrait à la prise de service à Neuilly un peu avant 6h30, ce n'est qu'à 8h que c'est la première fois qu'on entend parler d'un vol de portable dans le cadre d'un constat d'huissier. Ça veut dire que pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, ceux et celles qui sont soi-disant victimes de violence sont ceux et celles qui sont soi-disant victimes d'un vol, et ben sont parmi les grévistes, parmi les travailleurs de la poste, parmi une assemblée générale, sans rien dire. Autour de ça, ils attendent en fait 8h du matin. En tous les cas, c'est la première fois que ça figure dans un constat d'huissier. Donc voilà, écoutez, très franchement, sachez que vous êtes considérés par les avocats de la poste comme des gens qui vocifèrent. Ça génère inquiétude, troubles et forme d'agression. Merci vraiment à vous toutes et toutes d'être là. On ira de façon jusqu'au bout, et chacune des procédures permet de mieux maîtriser le dossier et permet de mieux l'attaquer. On ira jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, puisque pour la première fois là quand même, et c'est la première fois qu'on le fait, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette affaire-là, c'est la première fois que dans un tribunal, on porte en fait une attitude qui est une attitude manœuvrière de la part de l'entreprise, qui vise en fait à monter un certain nombre de coûts, et qui vise en fait à pouvoir mettre à défaut des représentants syndicaux, des grévistes, pour essayer de les faire condamner. Donc voilà, ça c'est quand même aussi la première fois qu'on le fait à ce niveau de juridiction, qu'on le fait au niveau d'un tribunal. Évidemment, il faut qu'on systématise, il faut qu'on centralise l'ensemble de ces informations concernant la politique de la Poste. Nos avocats sont évertués à démontrer ça, et il y a aussi un peu des incohérences quand même dans les déclarations qui ont été données. Donc voilà, est-ce qu'on a gagné? Très franchement, j'ai envie de dire, si là tu te fais condamner à de la prison avec sursis sur cette affaire là alors qu'en fait il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de capture d'écran du moment, il n'y a que la parole des cadres face à celle de grévistes, ça veut dire qu'en fait tu peux assez aisément et assez facilement te faire condamner. C'est peut-être le constat sur lequel il faudra aboutir, mais c'est celui surtout qu'il faudra attaquer. Donc il y a d'autres juridictions sur lesquelles on pourra attaquer. Évidemment, s'il y a une condamnation et si on ne reste pas là, eh bien on attaquera. Merci, merci quand même à vous. Voilà,
ouais,
merci.
Ouais.
Alors ben voilà, hein, un petit exemple de ce qui se passe à la Poste, hein, ça se passe comme
ça. Il y a malheureusement pas que la Poste.
Non, oui, alors ce qui est toujours délicat dans ce type d'affaires, et ce qu'on a souvent dit, évidemment, notre solidarité est pleine et entière avec Gaël et avec Sud PTT 92, particulièrement Sud PTT 92 qu'on a eu l'occasion de croiser dans de nombreuses luttes. Et pour le coup, ils sont, eux, le contre-exemple absolu, puisqu'ils ont la bonne idée de se mêler, en général, de luttes qui dépassent leur simple statut. Pour le coup, la convergence, ils essayent de la faire et de la porter. Mais le problème, c'est que cette stratégie de la direction de la Poste envers ses syndicalistes de lutte et de combat, elle peut être difficilement comprise dans l'ensemble du monde du travail, puisque d'une part, le syndicalisme dans le monde du travail et dans le secteur privé particulièrement, il est souvent inexistant, voire il se réduit à un syndicalisme de service. Donc il n'est pas du tout dans le type d'écho que peuvent avoir les syndicalistes de Sud PTT 92. Et puis d'autre part, il faut prendre acte que la majorité des gens qui travaillent aujourd'hui dans le secteur privé, hein, bien sûr, mais aussi également dans la fonction publique, sont des gens qui n'ont plus de profession à statut. Et en ce sens, il est toujours difficile de recevoir les motivations, les enjeux de ces syndicalistes ou de ces syndicats qui luttent dans des espaces où il y a encore des règles, où il y a encore des statuts, où il y a encore des choses qui encadrent le salariat et qui encadre l'emploi. Ce que je veux dire par là, c'est pas que la lutte dans les autres secteurs du privé, elle est impossible, au contraire, mais elle prend des formes qui sont différentes, c'est-à-dire la grève sauvage, c'est-à-dire le rapport de force direct avec la hiérarchie. On a eu l'occasion ici de parler de ce qui pouvait avoir comme type de désobéissance ou comme type d'insubordination salariale dans les entrepôts d'Amazon ou dans les centres de logistique, où là c'est directement hein, à la fois à la voix mais aussi parfois physiquement avec la hiérarchie, et le rapport de force il se fait directement. Et puis de toute façon, comme on a un rapport à son travail qui est lui-même dégradé, on n'hésite pas à se barrer ou à piquer ou à faire autre chose. Donc parfois, on a l'impression quand même de deux mondes qui aimeraient bien communiquer, mais qui malheureusement ont assez peu de choses à se dire. Bon, alors, on suivra, hein, de toute façon, on vous reparlera quand on aura les nouvelles de Gaël et de ses camarades de Sud 92, évidemment. On pense à eux, à Brahim, etc. De toute façon, ce sont des gens qu'on croise et qu'on recroise sur des luttes, et on verra bien ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire cette remarque-là, parce que quelque chose comme ça, normalement, ça devrait mobiliser de manière beaucoup plus large que ces petits habitués et ses soutiens proches. Mais bon. On n'est pas étonné. Bah,
je crois qu'il est, il le dit au début, hein, c'est-à-dire que mais à la poste, il n'y a pas aussi qu'à la poste, à la SNCF, c'est la même chose. Ceux qui sont titulaires, ceux qui sont fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires, sont minoritaires maintenant, et de plus en plus, et ça sera de plus en plus. Ce qui fait qu'au niveau des autres travailleurs, il y a une alliance qui n'est pas évidente sur le terrain. C'est-à-dire que pour que ceux qui ne sont pas protégés, quelque part, bougent encore moins que ceux qui le sont. Et encore, on le voit, ils le sont à condition, bien sûr, qu'ils ne bougent pas trop. Alors, si tu bouges pas, si tu... Alors, en plus, il y a un autre problème qui est posé, c'est l'intervention de la justice dans ces affaires. Et il semblerait bien que ça va s'accélérer. Si on regarde, par exemple, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la fameuse LOCMI, eh bien, le ministre de l'Intérieur, il pense à tous ceux qui ont pu manifester sur les ronds-points, manifester de manière intempestive sur leur lieu de travail. Eh bien, la répression va être prévue pour ces cas-là, y compris d'ailleurs par des lycéens ou des étudiants. Donc, vous voyez, je crois que là, il va falloir quand même qu'il y ait une sacrée unité de classe pour qu'on puisse vraiment arracher les victoires.
Bah, de toute façon, il y a une anticipation sur les nouvelles formes de mobilisation ou les formes de mobilisation. Le pouvoir a toujours un temps d'avance, même si parfois il peut être surpris et ne pas comprendre ce qui se passe parce que justement ça sort des cadres, mais en général il se rattrape.
Il se rattrape après. Ouais.
Et puis il va utiliser également des outils du droit pénal qu'il réservait auparavant à la délinquance, entre guillemets, pour les mettre dans le champ social. On pense là, par exemple, aux lois sur les bandes. On pense également sur le maintien de l'ordre à l'utilisation des armes dites non létales, hein, qui avaient d'abord été utilisées contre les supporters de football, puis contre les banlieusards, et aujourd'hui contre les manifestants dans la rue. On se rappelle aussi de l'interdiction de pénétrer dans les établissements scolaires, hein, ouais, qui avait également été au départ utilisé en réaction à des faits divers ou à ce qui était décrit comme étant des phénomènes de bande, qui sont bien évidemment des outils très appréciables pour empêcher les mobilisations de la jeunesse, mais aussi l'intervention de travailleurs de l'éducation nationale qui pourraient être solidaires et entrer dans un établissement scolaire. Pour ceux qui ont mon âge, j'allais dire, on se rappelle que une des politisations premières, et c'est les mouvements lycéens. Et dans un mouvement lycéen, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sort le matin et on va chercher ses copains dans tous les bahuts. Et normalement, à la fin, on finit, on est vachement nombreux. Ben ça, ben justement, c'est aujourd'hui c'est toujours possible. Hein. On ne dit pas que c'est pas impossible, mais c'est vachement dangereux parce que il y a la répression. On va s'écouter un peu de musique et puis on reparlera de tout un tas de petites choses pour vous donner la pêche sur ce magnifique monde qui, évidemment, tourne tout à fait rond pour le capital. Tiens, on va écouter un peu de musique. Celle-là, elle est pour toi, Pascal. J'ai pensé à toi ce soir. Voilà. Ah, c'était ACDC, Kicking the Teeth, coup dans les dents. sur le premier album. C'est pas par rapport aux dents, c'est par rapport au groupe. Alors Denis, je vois que tu as quelques documents devant toi. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous raconter encore comme horrible chose?
C'est horrible. Tous les mois, dans Courant Alternatif, je fais une rubrique qui s'appelle Big Brother depuis des années et des années, qui recense un petit peu toutes les nouvelles lois qui vont nous tomber sur la figure, qui recense aussi tout ce qui peut se passer comme répression, comme fichage surtout, dans notre société. Et là, ce mois-ci, me suis dit quand même que ça serait important de dire un certain nombre de choses sur les événements qui se sont déroulés. Je ne vous parlerai pas de la loi d'orientation et de programmation du ministre de l'Intérieur, la LOPMI, pour la bonne et simple raison, c'est que cette loi n'est pas encore définitivement passée. Donc on attend, c'est sûr que ce qui va nous attendre, ce qui va nous tomber sur la figure, ça sera pas triste. Mais bon, surtout d'ailleurs au niveau des amendes forfaitaires délictuelles, alors AFD, je dis simplement qu'au départ, le fameux Darmanin avait prévu que les flics et les gendarmes pouvaient directement vous tester, vous taxer en tant que, si vous commettez un délit, directement, il n'y a pas besoin de passer par la case justice, pof, il y avait 3600 délits qui pouvaient être verbalisés directement par la police et la gendarmerie. Là, je vous dis pas les trafics qu'il aurait pu y avoir, je vous dis pas.
Mais là, tu crois qu'ils auraient eu le lecteur de carte bleue pour régler directement, directement en liquide,
incroyable.
Ils n'avaient pas de monnaie. Ouais.
On va voir ce qui s'en passe ou pas, mais n'empêche que c'était prévu. Alors, je vais vous parler quand même de quelque chose qui évoque pour moi une réalité dans les manifestations, etc. C'est le fameux portable, le téléphone. Alors, je pense que tout le monde prend conscience de plus en plus. C'est que le téléphone est vraiment l'instrument de fichage, comme c'est pas permis. Pour la bonne et simple raison, c'est que grâce à votre téléphone, eh bien, on peut savoir où vous êtes. Ça c'est clair. Il n'y a pas besoin grand chose par rapport à la police, de la police ou de la gendarmerie pour identifier le porteur du portable en question, là où il est. Et alors ensuite, jusqu'à maintenant, on arrivait. Il y a certains qui étaient arrêtés, qui avaient un smartphone sur eux, qui étaient verrouillés. Puisque tous les smartphones, je crois que j'en ai pas, mais je crois qu'ils sont verrouillés, tous les smartphones. C'est un code. Et alors, les flics demandaient à la personne de donner leur code, et des fois, il y avait des gens qui refusaient de donner le code de leur smartphone. Jusqu'à maintenant, ça se passait en justice, évidemment, puisque les flics portaient plainte contre la personne. Ça se passait en première instance. Généralement, en première instance, ça se passait mal.
Bah oui, il y avait outrage, les mecs donnaient des chiffres, à 4 chiffres, donc ils n'arrivaient pas à compter jusque-là, les pauvres.
Et alors, il y a eu quand même quelques cours d'appel qui ont dit que c'était pas un délit. Donc il y avait conflit au niveau de la justice par rapport à ce problème de déverrouillage des portables. Eh bien, la Cour de cassation a tranché. Comme on pouvait s'en douter, elle n'a pas tranché en notre faveur. C'est clair que si vous avez un portable, qu'on vous demande le code pour déverrouiller, si vous le donnez pas, eh bien, il peut vous en coûter par l'article 434-15-2 du Code pénal. Ça peut vous coûter une peine de prison de 3 ans. Et ça peut vous coûter 270 000 euros d'amende. Voilà. Ils se sont mis d'accord pour qu'effectivement, ça soit un délit. Voilà, je crois que là, il faut faire attention. J'ai toujours dit, moi, aux militants, que quand on va dans une manif, le smartphone n'est pas conseillé, quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Des photos, il y en a assez. On peut avoir toujours un appareil photo sur soi pour filmer la police si, effectivement, elle abuse dans ses interventions. Mais dans une manifestation, à mon avis, c'est mal parti.
Bah oui, ou alors ça dépend, faut avoir un téléphone qui ne sert exclusivement à ça, parce que tu parlais du repérage, alors effectivement avec le bornage on peut savoir où vous êtes à quel moment vous êtes et quel trajet vous avez fait, mais il y a aussi tout ce qui concerne la protection de la vie privée, les datas qui sont à l'intérieur, tout ce que vous avez visité, l'enregistrement des SMS, etc., etc.
Avec qui vous êtes en relation.
Voilà, c'est ça. Et on ne parle même pas des possibilités d'écoute, puisque aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont dispose le pouvoir, on arrive à des trucs complètement démentiels. On vous avait parlé ici d'une manif qui avait eu lieu à Bar-le-Duc, ou avec un IMC catcher, c'est le nom d'une espèce de boîte noire en fait, hein. L'ensemble des numéros de téléphone et de leurs données avaient été aspirés, ça représentait plus de 5000 numéros qui avaient été véritablement aspirés et qui ensuite avaient été traités par une cellule spéciale de la gendarmerie pour pouvoir mettre en relation les gens qui étaient là avec leur potentielle identité. Donc on voit vraiment là déjà ce qu'on peut faire avec. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, quoi, bien sûr.
Tout à fait.
Autre chose ?
Ben, autre chose, justement, on parlait de ça. Je parlais de la reconnaissance faciale. Bon, pour l'instant, la reconnaissance faciale n'est pas acceptable pour l'État français, mais ça peut évoluer. Comme vous le savez, il va y avoir en 2024 les Jeux Olympiques et la France tient à reconnaître un petit peu le maximum de gens qui viendraient en France dans les manifestations sportives, encourager leur équipe, etc. Donc la reconnaissance faciale est vraiment un truc intéressant pour le pouvoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui travaillent pour le pouvoir. Hein. Comme d'habitude, il y a une entreprise, c'est souvent les entreprises. C'est une entreprise américaine qui, depuis 2015, ça s'appelle Clearview. Clear, comme Claire, V-V-U-W, qui collecte depuis des années toutes les photos qu'il y a sur Internet. C'est-à-dire aussi bien vous demandez un emploi, vous publiez votre photo sur un site. Il y a des sites comme ça qui sont très très prisés. Et ben toute cette photo se retrouvait parmi les millions de photos collectées, aussi bien sur YouTube que sur tous les autres réseaux sociaux, hein, que ça s'appelle Facebook, ou ça s'appelle autre chose, Twitter, tout ça, eh bien, cette entreprise pompait tout, et grâce à une invention de reconnaissance faciale, elle a fait un logiciel, une espèce de... C'est vraiment une espèce de... Comment dire? De catalogue, hein, de millions de personnes, c'est possible. Ou si vous cherchez telle personne que vous avez photographiée, eh bien, vous pouvez payer. En payant, on vous dira qui c'est. Incroyable, ça. Bon, eh bien, cette entreprise en question, qui est au départ liée à l'extrême droite américaine, hein, c'est du côté de Trump qu'il faut voir ça. Au début, comme d'habitude, mais là, il y a toujours des vieux poncifs. Au début, c'était pour repérer les migrants. Les migrants qui arrivaient...
J'allais dire les méchants, mais...
les migrants qui arrivaient aux États-Unis, hein, par le Mexique. Donc, grâce à ce truc-là, ils pensaient identifier absolument tous les migrants qui n'avaient pas lieu d'être aux États-Unis. Mais là, ça a débordé. Hein. C'est ainsi qu'ils ont des millions et des millions de photos. Et maintenant, ils s'adressent aux polices. Ils demandent à ce que leur travail serve aux policiers. C'est ainsi que la police belge vient de faire des tests. La police suédoise l'utilise. Quant à la police française, pour l'instant, elle peut pas, puisque c'est interdit. Alors, bon, c'est-à-dire que c'est tout simple, hein. Les flics prennent une photo d'un manifestant ou d'une personne louche dans un endroit donné. Ils sont abonnés à ce logiciel, qui est une base de données, en fait, et en quelques instants, ils connaissent le nom de la personne.
Alors, même si c'est interdit, hein, on a vu ces derniers temps que ce fantasme de la reconnaissance faciale progressait de plus en plus. C'était l'utilisation des drones pendant les manifestations par la préfecture de police de Paris, malgré l'interdiction du Conseil d'État. Et puis, c'est des expérimentations qui ont eu lieu par la RATP, notamment à Châtelet-Léal, hein, au Gros Nœud, pendant le confinement et l'épidémie de Covid, où on prétextait l'opportunité d'utiliser ces logiciels de reconnaissance faciale afin de pouvoir mesurer le port du masque, dans les rames de métro et de RER. Alors voilà, ben, pour ceux qui pensent que la technologie, ça permet de libérer, on voit bien comment dire, le tropisme assez rapidement vers l'autoritaire et vers l'utilité de cette technologie, pas forcément arranger la vie, ou alors en tous les cas arranger la vie de ceux qui nous dominent et qui nous exploitent, ça c'est sûr, mais pas de l'autre côté. Hein. On le voit encore là, ces derniers temps, avec ces espèces de délires sur Twitter, etc. etc. Hein, voilà. Alors,
cette reconnaissance faciale de cette entreprise ClearVue, je crois, ne marchera pas en France pour la bonne et simple raison, c'est que pour une fois, la CNIL est intervenue.
Ah!
Ah et oui, alors la CNIL est intervenue, elle a mis du temps quand même.
C'est
alarmé en 2020. Elle a demandé, elle a exigé que l'entreprise en question enlève toute cette reconnaissance faciale qu'elle faisait à propos à partir des photos qu'elle avait piquées sur Internet en France. Et puis finalement, l'entreprise n'a jamais répondu aux injonctions de la CNIL. Et la CNIL s'est fâchée. Et comme elle le peut, eh bien elle l'a fait. Elle a fait une amende. Elle a donc amendé cette entreprise de 20 millions d'euros, quand même. 20 millions d'euros. C'est le maximum qu'elle puisse faire. Hein. N'empêche que c'est sûr que l'entreprise en question va peut-être avoir du mal à s'en sortir après cette amende. Je ne sais pas comment que ça peut se passer, mais on sait très bien aussi que ce type d'entreprise peut passer outre et peut passer ailleurs. Hein.
Tout à fait. Alors, pour continuer dans la joyeuseté, il nous reste un quart d'heure. Donc, pour ceux qui ont la chance d'être au chômage, vous avez peut-être vu que c'est aujourd'hui que la loi sur la modification des conditions d'indemnisation a été présentée. On est entré dans le détail pour expliciter ce qui allait, et on est assez flippé de voir qu'il y aurait un décret pour sa mise en application vers la mi-décembre, et en tous les cas un déploiement le plus possible pour 2023. Sur les éléments qu'on a aujourd'hui, il y aurait deux aspects de cette loi de type. Donc l'idée principale, c'est de moduler les conditions d'indemnisation selon les périodes et la conjoncture économique, selon le vocabulaire bien choisi. Donc il y aura deux types de conjonctures économiques qui seront notifiées, donc bien, vert, pas bien, rouge. Et donc quand la conjoncture économique est mauvaise, alors les droits des chômeurs resteraient
ceux qui sont,
c'est-à-dire de la merde. Et lorsque la conjoncture économique serait bonne, on aurait une réduction d'un tiers de la durée d'indemnisation.
Ouais.
Pour être tout à fait clair, si par exemple aujourd'hui on a une durée d'indemnisation de 24 mois, on se retrouvait avec une durée d'indemnisation qui resterait à 16 mois. Et on aurait un plancher à 6 mois minimal d'indemnisation. On ne toucherait pas donc au montant de ces indemnisations, mais on toucherait à la durée, de ces indemnisations. Problème numéro 1, on l'a déjà dit, hein, sur les lois sur le chômage, on ne sait pas ce qu'est une conjoncture économique bonne ou une conjoncture économique mauvaise, ça n'a pas été explicité. D'autre part, on ne sait pas si cette conjoncture économique serait décidée au niveau national. Par exemple, on sait qu'il y a des régions qui voient leur taux d'emploi extrêmement variable selon à la fois le type de population qu'elles ont, diplômés, pas diplômés, éduqués, pas éduqués, industriels ou pas industriels, agricoles ou pas agricoles, et puis évidemment les moments d'activité. Prenons un exemple ici, dans la Marne, et plus particulièrement sur le bassin Épernay-Chalon-Reims, on est à 4% de taux de chômage. Et ce taux de chômage, il va descendre descendre à 2% pendant des périodes d'activité comme par exemple celle des vendanges. Évidemment, c'est pas des conjonctures économiques qui sont applicables partout. Et puis d'autre part, travailler dans les vignes, dans la viticulture, ça implique à la fois la possibilité de le faire, physique,
oui, physique
et
quoi.
Évidemment la nécessité d'être formé, puisque ce sont des métiers qui sont aujourd'hui de plus en plus qualifiés. On voit mal comment on pourrait, on va dire, intégrer de force des gens qui ont 50, 60, 65 ans, qui sont en fin de droit ou qui sont en fin de carrière et qui devraient, comment dire, intégrer de force, puisque on l'a appris aussi dans cette loi, cette réforme du chômage s'appliquera à tout le monde, c'est-à-dire même les gens qui ont plus de 55 ans et qui seraient éventuellement dispensés de recherche d'emploi ou qui partiraient vers une pré-retraite ou une retraite. Et alors là, on a un phénomène général qui est observable aussi dans la population salariée laborieuse française, c'est-à-dire un phénomène d'appauvrissement général, puisque évidemment faire baisser la durée d'indemnisation, ça permet de faire accepter n'importe quel type d'emploi mal payé, loin, pourri, dégueulasse, mais parce qu'on est obligé, parce que voilà, il nous faut du fric pour finir le mois, quoi. Ou alors de basculer vers un RSA, donc d'être encore plus pauvre et d'avoir un petit revenu de complément, donc quelques heures par-ci, par-là, avec un salaire qui ne permet pas de vivre, mais qui serait, on va dire, augmenté, en tous les cas compensé par le RSA. Donc on a vraiment là, on va dire, l'institutionnalisation à la fois des travailleurs pauvres, mais en plus la création de dispositifs qui permet, qui oblige justement les gens à accepter et à les, on va dire, les placer dans ces marques de travailleurs pauvres. Et c'est, semble-t-il, un petit peu la direction que prend depuis quelques années le capitalisme. Alors aujourd'hui, on le voit bien, on le ressent bien, hein, évidemment, avec l'inflation, le problème de la bouffe, le problème de l'accès à la mobilité. Que cet appauvrissement généralisé, et notamment l'appauvrissement des gens qui bossent, est en train de devenir une donnée principale. Et on le voit bien parce que souvent, l'état de la société, c'est les capitalistes qui en parlent le mieux. Et par exemple, aujourd'hui, enfin, je voulais vous parler d'une annonce qui a été faite par le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, qui est donc Carrefour, hein, le premier réseau d'hypermarchés en France, hein, Carrefour Promodès, et en Europe, hein, également, en Europe, ouais. Et qui se retrouve confronté à des gens qui ont plus beaucoup de fric pour pouvoir consommer. Et le capitalisme, il est basé sur la consommation, et le type de ces grands groupes, il faut quand même nous faire consommer, quitte à nous faire consommer de la merde. Donc le modèle de l'hypermarché tel qu'il était aujourd'hui existant est en train de se transformer, et le 16 novembre, Alexandre Bompard a surpris tout le monde, puisque dans la description du plan qu'il propose pour son entreprise, plan 2026, il a annoncé le lancement d'une enseigne qui s'appelle Atacadao en France. Atacadao, c'est une chaîne de magasins qui existe au Brésil. Il y a 50 ans, en 1975, les premiers hypermarchés ouvrait au Brésil. Alors le Brésil, c'est une population et c'est un marché qui a des gros extrêmes, puisque c'est un pays où il y a les plus grandes inégalités sociales. Pour vous donner un exemple, le Brésil a un PIB par habitant d'environ 7 500 $, c'est-à-dire 6 fois inférieur à celui de la France, à 43 000 $, enfin pas moins, hein, mais la moyenne, hein, selon la Banque mondiale. Et Atacadao, c'est ce qu'on appelle un cash and carry. Un cash and carry, c'est quand vous vous rappelez les premiers magasins hyper discount type DIA. C'est-à-dire on a des palettes, hein, en fait, on a des conditionnements là qui sont plus gros. Par exemple, les sacs de riz qui sont de l'ordre de 5 à 10 kilos. Il y a évidemment beaucoup moins de références de produits. On est sur entre 5 000 et 8 000 références de produits. Dans un hypermarché, on peut avoir 40 000 références de produits. Et puis, donc, on a des prix qui sont évidemment moins importants. Et ce que perçoit bien Carrefour et Bompard quand il lance ce type d'annonce, c'est qu'il a une vision très claire de ce qui va se passer au cours de ces prochaines années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les capitalistes et, on va dire, les enseignes de production sont en train d'acter, de comprendre le déclassement total d'une partie de la population et même d'une certaine partie de la classe moyenne qui, alors, pouvait faire ses courses chez Lidl, hein, bien sûr, hein, pour gratter un peu pour partir en Grèce ou aux États-Unis en payant son billet d'avion. Mais on voit aussi que ça, c'est axé avec la territorialisation. Pour être tout à fait clair, on voit qu'on est en train de redispatcher, redimensionner les principes de consommation, c'est-à-dire que on va avoir la France du cœur des grandes villes, hein, la France du cœur des métropoles, avec des cadres, avec des CSP+, qui sont d'ailleurs les seuls à pouvoir se loger à l'intérieur des centres-villes, qui se fourniront dans les supermarchés de proximité, dans les magasins bio, qui se font livrer parfois en moins de 1 heure ou de 15 minutes par toute cette armée de quick commerce, de Uber, etc., à l'intérieur de ce qu'on appelle les dark stores, hein, qui sont des entrepôts urbains qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, et les drives que vous pouvez voir en centre-ville. Alors que la population des classes modestes, des habitants de la grande banlieue, des populations issues de l'immigration, évidemment, elle se rendra dans des enseignes type Atacao pour faire les courses une fois dans le mois ou deux fois dans le mois, en prenant évidemment des grandes quantités. Et on voit bien aussi comment ça a changé, puisque auparavant, ce qui était perçu comme les hard discounters type Lidl ont, eux, totalement modifié leur type d'enseigne, totalement modifié le décor, etc., puisqu'ils ont compris qu'il y allait avoir des modifications. Alors, Atacadão, c'est vraiment typique pour les Brésiliens de la bouffe à pas cher et de la pauvreté, puisque on les voit au bord des favelas ou dans les quartiers. Il y a des systèmes de classement dans les quartiers au Brésil et dans les quartiers de B et C, donc qui sont vraiment les choses du. Et c'est sûr que ça fait déjà 20 ans qu'on propose notamment aux jeunes et aux pauvres de faire de l'autostop payant, hein, c'est Blablacar, ou de prendre un bus qui met 5 heures au lieu de prendre un TGV puisqu'on ne peut plus payer le train. Et donc on a finalement la diffusion dans les habitudes de consommation et dans les principes de consommation de cette intégration d'une partie de la population qui ne peut pas consommer comme la majorité de la population, comme les riches, donc qui va, entre guillemets, quand même devoir dépenser son argent et créer de la valeur, mais qu'on va prendre en charge à l'intérieur de cette société du low cost. Et on voit bien que cela, ça va totalement avec la philosophie de Macron et la philosophie du capitalisme aujourd'hui, de cette société où c'est normal de bouffer de la merde, c'est normal de faire des kilomètres à pied pour pouvoir aller bosser, c'est normal de faire 5 heures pour faire un trajet, c'est pas il doit y avoir une différenciation au niveau de ses revenus, et c'est normal d'habiter dans des cages à lapins à des dizaines et des dizaines de kilomètres de ce qui passe, quoi. Et donc avec l'annonce de cette création d'Atacadão par Bompard et par Carrefour, on est dans une facette de plus de ce monde de low cost, et qui acte vraiment ce que je disais au début, la prise en compte de la paupérisation de la population française, et même d'une certaine manière de la population européenne, quoi. Donc évidemment, c'est un peu plus difficile à voler les sacs de riz de 5 kilos, mais qu'on se rassure, on ne se laissera pas crever de faim, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais il est sûr que il va se passer des choses, et on en parle déjà un peu partout sur les trucs, mais il va falloir réagir et réfléchir à savoir comment répondre à cette ville au cost qu'on nous propose.
Allez, on va se quitter là-dessus.
Oui, bah, le générique est parti. Tu peux dire qu'on peut retrouver toutes les émissions sur le site de l'OCL ou sur le blog du Chat Noir. On entend des applaudissements. Je ne sais pas si c'est pour nous. Merci, c'est gentil. Ah non, c'était de la musique. Je pense qu'il s'est trompé. Il voulait lancer le générique. Le voici. Et nous, on se retrouve certainement la semaine prochaine, ouais.
Oui, bien
pour
sûr.
De nouvelles aventures.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions.